Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins.
Tu veux que je te fasse le cri du dindon ?
Ouais !
Oh, des salades ! Tu sais que j'ai jamais vu des salades plantées. Non mais c'est vrai, je les vois toujours sous cellophane au prisu.
La maison était très logeable. Au devant, un jardin en terrasse, une vigne au-dessus, un verger en dessous, vis-à-vis un petit bois de châtaigniers et une fontaine à portée. Plus haut dans la montagne, des prés pour l'entretien du bétail, tout ce qu'il fallait pour le petit ménage champêtre que nous voulions y établir. « Oh maman, dis-je à cette chère amie, ce séjour est celui du bonheur et de l'innocence. Si nous ne les trouvons pas ici l'un avec l'autre, il ne les faut chercher nulle part. » Un petit coin de bonheur et d'innocence, c'est aussi le bureau des nouveaux chemins. Enfin, demandez à Colomba Grossi, Lucie Tardy, Marianne Chassor et Antoine Ravon ce qu'ils en pensent. À la réalisation cette semaine, Midia Portis-Guérin, la prise de son aujourd'hui, Emmanuel Morse-Duncan, et celle que vous retrouverez à 10h51 pour ces 2 minutes papillon comme tous les jours, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Eh bien, les éditions des Belles Lettres publient 7 romans grecs et latins dans de nouvelles traductions et en un seul volume. C'est donc à découvrir tout à l'heure à 10h51.
Rendez-vous donc à 10h51. Les confessions de Jean-Jacques Rousseau, deuxième temps. Après la lecture du livre 1 par Alain Gros-Richard hier et les découvertes de la jouissance dans la douleur d'une fessée, avant le plaidoyer de Jean-Jacques seul contre tous, demain, à partir des livres 7 à 9 en compagnie de Jean-François Perrin, et les enjeux philosophiques de l'écriture à l'épreuve de soi, de la fin des confessions aux rêveries du promeneur solitaire par Paul Audy, ça ce sera jeudi, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui la professeure de littérature à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Claude Habib, pour évoquer le livre 6 des confessions, le bonheur du séjour aux Charmettes, un bonheur qu'il doit à la solitude, à la lecture ou à son amour doux pour celle qu'il appelle maman. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir en nous aventurant sur le penchant d'un vallon de Savoie, au début du printemps. Bonjour Claude Habib.
Bonjour.
There was a boy, a very small and shattered boy. They say he wandered very far, very far over land and sea. Inside of mine, but very wise was he. And then one day, one magic day, he came my way. And as we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Ici commence le court bonheur de ma vie. Ici viennent les paisibles puis rapides moments qui m'ont donné le droit de dire que j'ai vécu. Moments précieux et si regrettés. Ah, recommencez pour moi votre aimable cours. Coulez plus lentement dans mon souvenir s'il est possible que vous ne fîtes réellement dans votre fugitive succession. Comment ferais-je pour prolonger à mon gré ce récit si touchant et si simple ? Pour redire toujours les mêmes choses et n'ennuyer pas plus mes lecteurs en les répétant que je ne m'ennuyais moi-même en les recommençant sans cesse. Encore si tout cela consistait en faits, en actions, en paroles, Je pourrais le décrire et le rendre en quelque façon, mais comment dire ce qui n'était ni dit, ni fait, ni pensé même, mais goûté, mais senti, sans que je puisse énoncer d'autre objet de mon bonheur que ce sentiment même. Je me levais avec le soleil et j'étais heureux. Je me promenais et j'étais heureux. Je voyais maman et j'étais heureux. Je la quittais et j'étais heureux. Je parcourais les bois, les coteaux, j'errais dans les vallons, je lisais, j'étais oisif, je travaillais au jardin, je cueillais les fruits, j'aidais au ménage et le bonheur me suivait partout. Il n'était dans aucune chose assignable. Il était tout en moi-même. Il ne pouvait me quitter un seul instant. Rien de tout ce qui m'est arrivé durant cette époque chérie, rien de ce que j'ai fait, dit et pensé tout le temps qu'elle a duré, n'est échappé de ma mémoire. Je ne vois plus rien dans l'avenir qui me tente. Les seuls retours du passé peuvent me flatter. Et ces retours, si vifs et si vrais dans l'époque dont je parle, me font souvent vivre heureux, malgré mes malheurs.
Jamais le terme de bonheur et l'adjectif heureux ne revient tant sous la plume de Rousseau que dans ce texte, Claude Habib. Alors à quoi faut-il imputer ce bonheur ? À la solitude, à la nature ou à l'amour qu'il porte à cette femme qu'il appelle maman ?
Je ne sais pas, aux trois certainement. Il y a des périodes de bonheur qui sont identifiables, qui sont comme des nodules dans cette vie errante et à certains égards pathétique de Rousseau. Vous avez vu Bosset hier, ce moment de vie champêtre après l'austère Genève et ce bonheur de la découverte de la nature par le petit garçon. Ensuite, les Charmettes et puis le troisième temps, c'est évidemment cette île Saint-Pierre dont il est question et dans les Confessions et dans les Rêveries, avec le bonheur solitaire, cette fois dans la barque. Alors, dans les trois cas, ce qu'il y a, c'est le contact avec la nature. Mais ici, bien sûr, en plus, il y a la protection féminine, il y a l'accueil et l'hospitalité d'une femme qui lui permet, comme il le dit dans les Rêveries, à la toute fin de sa vie, de faire ce qu'il voulait faire et d'être ce qu'il veut être. Donc c'est une sorte de licence à être soi qui lui est donnée, plusieurs années où il va pouvoir devenir Rousseau.
Paradoxe pour cet homme qui n'aime rien tant que d'être seul, que de se voir attribuer, autorisé à être seul, d'avoir besoin de quelqu'un pour l'autoriser à être seul.
Paradoxe, pas tant que ça, parce que il le dit dans les dialogues, c'est la situation dans ce monde. Peut-être il en va autrement dans l'autre monde, mais on a besoin d'un autre pour être soi. La solitude de Rousseau, c'est pas le solipsisme, c'est pas l'enfermement en soi-même. Il se décrit toujours comme le plus aimant des êtres. Il a vraiment ce besoin d'affection douce, il a besoin d'amour et d'amitié, c'est central chez lui. Donc je trouve que c'est pas si paradoxal que ça, qu'il ait besoin de cette sécurité affective pour être heureux. D'ailleurs, à Bosset, il y a le couple Lambercier, qui est pas encore grillé, qui le sera après la grande injustice du peigne brisé. Et dans l'île Saint-Pierre, eh bien, il y a le couple du receveur et il y a Thérèse. Il n'est pas absolument seul.
L'entreprise même des Confessions peut jeter un doute quant à la sincérité de Rousseau au moment où il écrit, puisque c'est un regard rétrospectif par définition sur sa propre vie. Il y a une lettre qu'il adresse à Malesherbes en janvier 1762, dans laquelle il précise qu'il n'a vraiment commencé de vivre que le 9 avril 1756. À l'Ermitage donc, plus de 20 ans après son séjour aux Charmettes. Est-ce à dire que ce bonheur sur lequel il insiste tant ne serait en réalité qu'une reconstruction rétrospective ?
Non, je crois pas. C'est très frappant ce que vous dites, parce que dans cette troisième lettre à Malesherbes, il y a la même expression. Hein. J'ai demeuré 76 ans sur la terre et j'en ai vécu 7, qui est une expression d'un Romain s'outrageant. Il la reprend et il dit que lui c'est pareil, j'ai commencé à vivre que le 9 avril 1756, donc ce qu'il va identifier, c'est le moment où il est à Montmorency et où il s'est retiré de Paris, où il est à la Chevrette chez Madame d'Épinay. Mais c'est pareil, c'est le moment où il se retire de la ville, où il est à la campagne, qui est identifié comme le lieu de son bonheur, dans une perspective, dans cette lettre à Malesherbes, assez défensive, puisqu'il est en train de dire « Vous croyez que je suis malheureux parce que je me suis retranché du monde ?» Mais pas du tout. C'est à partir du moment où je suis à la campagne que je suis heureux. Alors, vous allez me dire pourquoi puisqu'il veut dévoiler son cœur à M. de Malesherbes, il ne parle pas de cette période précédente, de cette période vraiment juvénile, de l'errance entre la Savoie et la France, et de cette protection de Voiron. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il ne dira que plus tard, qu'il ne dira que 2 ans plus tard, quand il écrit les Confessions. Alors, je pense qu'il y a des choses qui sont impossibles à dire, et qui d'ailleurs ont été des chocs, on ne se rend pas compte, mais il dit qu'il a été laquais dans le livre 2 des Confessions. Or, un laquais, pour eux, au XVIIIe siècle, c'est... Vous savez, c'est des gens qui n'ont pas le droit d'aller au théâtre. C'est l'infamie, le laquais. C'est celui qui... c'est la bassesse d'âme. Et de cette bassesse d'âme des laquais, il avoue, d'une certaine manière, participer. Il est quelqu'un qui vole, qui chaparde, qui vole des bouteilles pour boire tout seul dans sa chambre. Il est quelqu'un qui... célèbre cas de la calomnie de Marion, qui ment, qui... Donc, il a à voir avec cette... Il y a quelqu'un qui montre son derrière aux filles de Turin. Donc, il a à voir avec cette bassesse des classes inférieures. Et ça, c'est une chose, à mon avis, qu'il ne peut pas dire à M. de Malesherbes. Enfin, c'est indicible et inaudible à l'époque.
Alors peut-être faut-il préciser, pour bien comprendre ce que vous dites, Claude Habib, que ce livre 6 que nous lisons aujourd'hui comme une forme d'hommage à cette maman, à cette madame de Varins, qui lui a permis d'être seule et de vivre dans la volupté de sa solitude, sans aucun plaisir, disons, il y a un plaisir de sa part, disons, presque jouissif, presque, mais on y reviendra, ce plaisir n'est pas forcément sexuel.
Il est attaché au sexe quand même.
Pardon ?
Il est quand même attaché au sexe. Et la preuve, c'est que quand il n'y a plus de sexe, il n'y a plus cette intimité délicieuse qu'il...
Voilà, mais nous sommes loin de l'éducation que lui dispensera ensuite Madame de Larnage dans le terme d'éducation sexuelle.
Oui, mais il y a cette attache mystérieuse de l'intimité et de la sexualité. Il en est désolé, mais il aimerait bien avoir l'un sans l'autre, puisque le rapport sexuel avec Madame de Voiron n'est pas celui qu'il devrait être. Oui, c'est une relation sexuelle ratée. Et en même temps, vous savez, il y a une note dans la Nouvelle Héloïse qui est très frappante, juste après la grande, grande nuit d'amour avec Julie. Vous avez une note de l'éditeur, c'est-à-dire Rousseau, qui dit « Aux femmes trop faciles, voilà un test pour savoir si votre amant vous aime, regardez-le au sortir de vos bras. Ô amour, si je regrette... le temps où l'on te goûte, ce n'est pas pour l'heure de la jouissance, c'est pour l'heure qui la suit. Ce qui est essentiel pour lui, c'est cette intimité auquel la sexualité donne accès. Et donc, ce qui se produit au Charmette, c'est-à-dire ce bonheur d'aller dans sa chambre le matin dès qu'elle se réveille, ce bonheur d'être avec elle, d'avoir accès tout le temps. Bien sûr, elle était sa protectrice avant d'être sa maîtresse, mais là, maintenant, il peut... tout le temps être auprès d'elle, cette manière d'être auprès d'une femme, ben, c'est attaché quand même à la sexualité.
Mais ce qui explique sans doute, et c'est là que je voulais en venir, l'écart entre la manière dont nous lisons ce texte aujourd'hui, ce livre 6, comme une sorte d'hommage à cette Madame de Varens, qui ne l'appelle pas maman pour rien, on y reviendra, et la façon dont ça a pu être reçu à l'époque, en témoigne peut-être la lettre à Malesherbes. Il y a comme une honte quand même qu'il pouvait ressentir, vous avez insisté là-dessus en montrant l'écart dans sa condition sociale, à vivre avec une femme qui non seulement est plus âgée que lui, mais qui aussi, à mesure qu'on lit le livre, on l'apprend, va avoir un amant. Il y a une sorte de ménage à trois qui s'installe à ce moment-là, ce qui est, pour l'époque, complètement honteux.
Il y a même 2 ménages à trois consécutifs, hein, puisque au livre 5, il comprend tardivement d'ailleurs que Claude Anet, qui est une sorte d'homme à tout faire, était son amant. Il devient l'amant de Madame de Voiron sans qu'elle congédie Claude Anet, donc il y a un premier ménage à trois. Ensuite, Claude Anet meurt dans des circonstances assez mystérieuses et on peut penser à un suicide. Et puis, il demeure donc seul amant, non pas en titre, parce que tout ça est tout à fait caché. Madame de Voiron est une dame bienfaitrice qui doit s'occuper des nouveaux convertis et qui touche une pension du prince de Savoie, de Sardaigne et de Savoie, pour cela. Donc, évidemment, elle n'a pas intérêt à afficher des liaisons. Et à partir de 1738, il a un nouveau concurrent, si je puis dire, en la personne de ce Vincent Reid, jeune homme encore plus jeune que Rousseau, qui devient l'amant en titre de Madame de Voiron. Donc, ils sont de nouveau deux, et Rousseau, là, cette fois-ci, fait sécher le ménage à trois. Donc, bon, c'est une collectionneuse. Manifestement, elle a beaucoup d'amants, et même beaucoup d'amants, non seulement consécutivement, mais simultanément.
Quand je vivrai 100 ans, je ne me rappellerai jamais sans plaisir le souvenir de cette charmante femme. Je dis charmante, quoiqu'elle ne fût ni belle ni jeune. Mais, n'étant non plus ni laide ni vieille, elle n'avait rien dans sa figure qui empêchât son esprit et ses grâces de faire tout leur effet. Tout au contraire des autres femmes, ce qu'elle avait de moins frais était le visage, et je crois que le rouge le lui avait gâté. Elle avait ses raisons pour être facile, c'était le moyen de valoir tout son prix. On pouvait la voir sans l'aimer, mais non pas la posséder sans l'adorer. Et cela prouve, ce me semble, qu'elle n'était pas toujours aussi prodigue de ses bontés qu'elle le fut avec moi. Elle s'était prise d'un goût trop prompt et trop vif pour être excusable, mais où le cœur entrait du moins autant que les sens. Et, durant le temps court et délicieux que je passais auprès d'elle, j'eus lieu de croire, au ménagement forcé qu'elle m'imposait, que, quoique sensuelle et voluptueuse, elle aimait encore mieux ma santé que ses plaisirs. Cette vie délicieuse dura 4 ou 5 jours, pendant lesquels je m'enivrais des plus douces voluptés, je les goûtais pures, vives, sans aucun mélange de peine. Ce sont les premières et les seules que j'ai ainsi goûtées. Et je puis dire que je dois à Madame de Larnage de ne pas mourir sans avoir connu le plaisir.
Je regardais de loin s'il était jour chez maman. Quand je voyais son contrevent ouvert, je tressaillais de joie et j'accourais. S'il était fermé, j'entrais au jardin en attendant qu'elle fût éveillée, m'amusant à repasser ce que j'avais appris la veille ou à jardiner. Le contrevent s'ouvrait, j'allais l'embrasser dans son lit, souvent encore à moitié endormi, et cet embrassement aussi pur que tendre tirait de son innocence même un charme qui n'est jamais joint à la volupté des sens.
Et oui, pour essayer de présenter Madame de Varens à ceux de nos auditeurs qui n'ont pas forcément lu le texte, qui ne savent pas qui c'est, on sait qu'elle s'appelle Maman, mais essayons de la distinguer d'abord de cette Madame de Larnage dont il fait le récit à la fin du livre 6, ici dans un texte qui a été interprété par le comédien Georges Clès. Madame de Larnage dont il dit qu'il c'est à elle qu'il doit de ne pas mourir sans avoir connu le plaisir. Donc d'un côté, amour maternel, et de l'autre, amour proprement sexuel.
Oui, amour proprement sexuel pour Madame de Larnage, qui contraste avec cette douceur de l'intimité avec maman. Est-ce que c'est lui qui connaît le plaisir avec Madame de Larnage? Je vous rappelle qu'il a un faux nom à ce moment-là, qui s'appelle Mr. Dudding. Moi, on peut se demander si Rousseau a jamais connu la jouissance. Mr. Dudding l'a connu. C'est sous un faux nom, dans cette espèce de des aléas de la route, on sait qu'on se reverra plus, que se passe cette histoire qui n'est pas du tout rousseauiste, qui est vraiment une histoire libertine. On dirait un épisode de la vie de Casanova. C'est des amours de route, comme ça. Et c'est assez charmant, c'est assez enchanteur, qui cet accro à l'intérieur du rousseauisme du moment de la jouissance, qui était un moment où il n'est plus lui-même. Mais où, vous voyez, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le même caractère de mélange. Il n'est pas en train de faire une icône de Madame de Voiron, il montre vraiment les écarts et d'elle avec Vincent Reid et de lui avec Madame de Larnage. Vous voyez, il n'y a pas d'idéalisation de ce qui se passe. Il y a cette histoire mêlée, cette histoire...
Avec Madame de Larnage, il n'y a pas d'idéalisation, parce qu'avec Madame de Varens, au contraire.
Oui, d'accord, mais il n'y a pas... Ce n'est pas une épure, le livre 6. Il dit les choses... C'est un livre qui est vraiment non mensonger, au sens où il raconte le bonheur, mais il raconte un bonheur qui est aussi compliqué que nos vies. C'est-à-dire que c'est un bonheur qui est traversé de ratures, de ce garçon perruquier dont maman s'entige, de Madame de Larnage, cet amour de voyage. Ça... Vous voyez, ce n'est pas homogène, ce n'est pas idéalisé. C'est le bonheur tel que il le raconte si bien, un bonheur qui ne tient à rien de... Il n'y a aucune anecdote qui permettrait de l'identifier. Le bonheur le suit où qu'il aille, et simultanément, c'est compliqué.
Mais vous dites Madame de Vuaren, comment vous prononcez le terme?
C'est la vraie prononciation.
C'est ce que ça s'écrit W-A-R-E-N-S.
C'est d'abord W-A, c'est une faute de transcription déjà en Savoie, parce que le vrai nom de famille c'est V-U-A, donc c'est Vua, et puis en Savoie, Reims se dit Rang. Donc on sait maintenant, il y a un livre qui est paru sur elle de Anne Nochis, qui est d'ailleurs une descendante lointaine, qui explique bien qu'il faut dire Vuaren comme un Aran ou comme un Varan. Alors c'est peut-être moins joli, mais c'est comme ça qu'il l'a dit lui-même.
Bon, bah, on gardera les deux prononciations pour satisfaire tout le monde alors. Moi, je continuerai à lire Madame de Varens. Dans ce livre 6, vous dites qu'il n'est pas du tout mensonger ni idéalisé. C'est quand même une affirmation qu'on peut nuancer à la lecture notamment des lettres, et je lisais la lettre de Malesherbes notamment. Et Madame de Varens, lorsqu'il la rencontre, c'est un portrait, on dirait Julien Sorel qui rencontre Madame de Rênal. On est en pleine idéalisation quand même.
Oui, mais simultanément, il dit avec une précision incroyable qu'il n'y a eu d'amour que dans ce premier coup d'œil. Le premier coup d'œil de la rencontre, c'est de l'amour, mais après, non. Après, c'est autre chose. Et c'est autre chose qui est indescriptible. Alors, il y a des formules. Le coup d'œil de notre première entrevue fut le seul moment vraiment passionné qu'elle m'ait jamais fait sentir. Encore fut-il l'ouvrage de la surprise. C'est pas elle l'amour de sa vie. L'amour de sa vie, c'est une autre, c'est Madame Doudetau, dont il sera question au livre 9 des Confessions. Et il déclare forfait, dit ce qui pourra, les sentiments que j'avais pour elle. C'est ce qu'il dit au livre 3. Amante peut-être, mais surtout la mère, la sœur. Elle est un ensemble de figures féminines, mais ce n'est pas de l'amour. Il insiste beaucoup sur ce fait-là. Ce n'est pas de la passion.
Et alors, comment interprétez-vous le départ, finalement, de Rousseau, la séparation avec maman, justement, puisque d'aucuns lui reprochent de l'avoir abandonné, Chateaubriand notamment, alors que lui dit que c'est lui qui s'est échappé, car elle avait pris un autre amant, qu'il avait été chassé de la demeure.
Mais il a certainement été chassé de la demeure. Moi, ce qui me frappe, c'est pas qu'il a été chassé, c'est que elle l'a conservé si longtemps, à un moment où ils n'ont plus du tout de rapport sexuel. Écoutez, il part pour Paris, disons, en 41-42. La rupture, c'est 38. Donc, il est resté à ses crochets ou aux charmettes 3-4 ans. Bon, il y a un an où il est précepteur des enfants Mably à Lyon, mais il est resté très longtemps dans les parages et dans la dépendance de Madame de Voiron, alors qu'il est plus son amant. Donc c'est plutôt le temps qu'il a mis à se décider à quitter cette femme, à quitter son orbite, qui me frappe.
Aujourd'hui, jour de Pâques fleurie, il y a précisément 50 ans de ma première connaissance avec Madame de Varens. Elle avait 28 ans alors, étant née avec le siècle. Je n'en avais pas encore 17, et mon tempérament naissant, mais que j'ignorais encore, donnait une nouvelle chaleur à un cœur naturellement plein de vie. S'il n'était pas étonnant qu'elle conçût de la bienveillance pour un jeune homme vif, mais doux et modeste, d'une figure assez agréable, il l'était encore moins qu'une femme charmante, pleine d'esprit et de grâce, m'inspira avec la reconnaissance des sentiments plus tendres que je n'en distinguais pas. Mais ce qui est moins ordinaire est que ce premier moment décida de moi pour toute ma vie et produisit par un enchaînement inévitable le destin du reste de mes jours. J'engageai maman à vivre à la campagne. Une maison isolée au penchant d'un vallon fut notre asile, et c'est là que dans l'espace de 4 ou 5 ans j'ai joui d'un siècle de vie et d'un bonheur pur et plein qui couvre de son charme tout ce que mon sort présent a d'affreux. Je ne désirais rien que la continuation d'un état si doux. Ma seule peine était la crainte qu'il ne durât pas longtemps, et cette crainte, née de la gêne de notre situation, n'était pas sans fondement. Dès lors, je songeais à me donner en même temps des diversions sur cette inquiétude, et des ressources pour en prévenir les faits. Je pensais qu'une provision de talent était la plus sûre ressource contre la misère, et je résolus d'employer mes loisirs à me mettre en état, s'il était possible, de rendre un jour à la meilleure des femmes l'assistance que j'en avais reçue.
Perhaps it is the color of the sun caught flat and covering. Crossroads I'm standing at. Oh, maybe it's the weather or something like that. Oh, but mama, you've been on my mind.
I don't mean trouble, please don't put me down. Don't get upset, I am not pleading. Oh, saying that I can't forget you. I do not pace the floor, bow down and bend, but yet, oh mama, you've been on my mind. Even though my eyes are hazy and my thoughts, they might be narrow, where you've been don't bother me. Oh, bring me down with sorrow. I don't even mind who you'll be waking with tomorrow. But mama, you've been on my mind.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h26. Mama, you've been on my mind. C'est Jeff Buckley qui le chante et c'est Rousseau qui le dit au livre 6 des Confessions qui nous accompagne toute cette semaine. Le livre 6, le bonheur aux charmettes, la rencontre avec celle qu'il appelle maman, la découverte des études. C'est le programme du jour. Et c'est Claude Habib qui est avec nous pour en parler aujourd'hui en studio. Claude Habib, à qui l'on doit notamment un excellent livre intitulé Rousseau aux charmettes, disponible aux éditions de Fallois.
Wake up in the morning, baby, look inside your mirror. You know I won't be next to you. You know I won't be near. I'd just be curious to know if you could see yourself as clear as someone who has had you on his mind.
La joie avec laquelle je vis les premiers bourgeons est inexprimable. Revoir le printemps était pour moi ressuscité en paradis. À peine les neiges commençaient à fondre que nous quittâmes notre cachot et nous fûmes assez tôt aux charmettes pour y voir les prémices du rossignol. Dès lors, je ne crus plus mourir et réellement il est singulier que je n'ai jamais fait de grande maladie à la campagne. J'y ai beaucoup souffert, mais je n'y ai jamais été alité. Souvent, j'ai dit, me sentant plus mal qu'à l'ordinaire, « Quand vous me verrez prêt à mourir, portez-moi à l'ombre d'un chêne. Je vous promets que j'en reviendrai. » C'est toujours dans le livre 6 qu'on lit ces lignes, Claude Habib, qui, livre 6, disons-le, est hanté par la mort. Rousseau passe son temps à croire qu'il va mourir. Il tombe malade, il s'ausculte en permanence, il est dans une espèce d'hypocondrie générale.
Oui, et c'est certainement lié à cette expérience du bonheur. Cette maladie est très frappante. Vous parliez de la séparation. La séparation qui le conduit d'abord à Montpellier, où il y a cette aventure de voyage avec Madame de Larnage, c'est lié à une maladie terrible, un polype au cœur qu'il pense fatale. Il écrit les vapeurs. Qu'il a des vapeurs, les vapeurs, c'est ce que nous appelons la dépression. Les vapeurs sont les maladies des gens heureux. C'était la mienne. Donc quand on est heureux, on tombe malade. C'est vraiment une conviction profonde chez lui. Nous sommes si peu faits pour être heureux ici-bas qu'il faut nécessairement que l'âme ou le corps souffre quand ils ne souffrent pas tous les deux. Donc vous avez un paradoxe. Moi, très longtemps, j'avais pas compris la fin de La Nouvelle Héloïse. La fin de La Nouvelle Héloïse, Julie dit « Mon ami, le bonheur m'ennuie. Concevez-vous ce dégoût du bien-être ?» Alors je me disais « Julie, en fait, elle est malheureuse parce qu'elle est amoureuse de Saint-Preux et elle le dit comme ça parce que c'est une femme décente et que elle utilise la litote. Mais pas du tout, je crois que c'est une conviction vraiment profonde de Rousseau qu'on retrouve dans la 9e promenade, donc à la toute fin de sa vie. Le bonheur est un état permanent qui ne semble pas fait ici-bas pour l'homme. Donc, il y a cette idée... tous nos projets de félicité pour cette vie sont des chimères. C'est très frappant qu'il dise ça, parce que c'est...
Ouais, ça, c'est pas la même chose. Dire que c'est une chimère, ça veut dire que c'est impossible. Ça veut pas dire que ça nuit à l'homme.
Ça, c'est... c'est deux lignes après. Alors, ça nuit à l'homme. Je crois que c'est un penseur du bonheur, il n'y a pas de doute qu'il a ouvert les perspectives de bonheur qui sont encore les nôtres. Je veux dire, il ouvre le romantisme européen, il ouvre aux idées d'authenticité sentimentale qui sont nos manières de voir encore. Je veux dire que la perspective d'être soi-même, elle dépend de Rousseau. L'idée de l'amour-passion dépend aussi très largement de sa conception... Oui, de ce qu'il pense être le bonheur dans la vie. Alors, nous vivons encore dans ces coordonnées-là, mais lui-même, je dirais, rabaisse ses espérances. Dans la neuvième promenade que je citais, il dit, le bonheur, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il existe. Contentons-nous du contentement. C'est déjà beaucoup quand il y a autour de nous des cœurs contents et n'en demandons pas plus. Donc vous avez à la fois un éloge extraordinaire du bonheur et une sorte de défiance. En tout cas, ça ne peut pas s'instaurer de manière permanente. On ne peut pas... Qu'est-ce qu'il demande finalement ? Il demande de conserver le bonheur comme orientation générale de l'existence. Que nous restions tournés vers les vrais biens, c'est ça qu'il demande.
Mais le texte des Confessions montre que pour lui, il n'est de bonheur que rétrospectif. Le seul moment où il semble en adéquation avec ce qu'il est en train de vivre, ce sera plus tard, peut-être dans les rêveries, lorsqu'il est sur sa barque et qu'il ressent ce pur sentiment d'exister, et on est ici dans le sentiment et pas dans le raisonnement, alors il fait peut-être ce qui s'approche de l'expérience du bonheur. L'écriture même des Confessions, le bonheur semble reconstruit dans ce chapitre parce que précisément...
Mais je ne vois pas pourquoi vous dites qu'il
est reconstruit. Mais parce qu'il passe son temps à dire qu'il est sur le point de mourir, seconde partie des Confessions, il se présente comme étant persécuté, hypochondriaque et malheureux.
Oui, ça, bien sûr. Mais
voilà.
Le fait qu'il se mette à être malade, à avoir des palpitations, etc., est pour lui le signe que le bonheur est invivable. Vous savez, sur la jouissance sexuelle, puisqu'il l'a éprouvé avec Madame de Larnage, mais il ne l'a jamais éprouvé avec la femme qu'il aimait. Il dit... Je crois que ma frêle machine n'aurait pas pu y suffire. Je serais mort sur le fait si j'avais éprouvé donc une jouissance sexuelle avec une femme que j'aime. Donc, vous voyez, l'idée, nous ne sommes pas des dieux. Nous n'avons pas la capacité d'un bonheur complet, absolu, plein et permanent. Non, ce bonheur sans faille, c'est pas ça qu'il faut espérer. Quand on est dans une expérience de bonheur comme au Charmettes, ça tourne presque nécessairement mal. Voilà ce qu'il dit. Donc je suis pas sûre que ça prouve que c'est une reconstruction. Je crois pas. Alors, qu'il ait redécouvert les Charmettes tardivement, je suis d'accord avec vous, mais je crois que c'est aussi lié au fait qu'il y a un palimpseste dans les Charmettes. Il y a des Charmettes heureuses qui sont la première partie. Et puis, il y a ce long temps qu'il a passé seul aux Charmettes, abandonné par maman, ou aux Charmettes avec elle et Vitsen Reed, en étant plus que le second, que le tiers, que le gêneur de ses nouvelles amours. Et je crois qu'il a aussi beaucoup souffert aux Charmettes, ce qu'il ne dit pas. Donc, que le souvenir du bonheur ait mis longtemps à émerger, ça ne prouve pas que c'est le terme que vous avez employé de reconstruction, qui me semble un petit peu y aller à la truelle, si vous voulez.
Pour... Ah, je vous remercie.
Oui, mais je crois que c'est quelque chose de sentimental et que c'est pas de l'ordre de la reconstruction, c'est de l'ordre du souvenir qui réémerge.
Bah alors, tu vois que tu aimes la campagne.
Mais oui, j'adore. C'est reposant, c'est beau. Enfin, je l'aime comme tout le monde, 3-4 jours, plus longtemps, je m'ennuie.
Parce que tu ne fais rien.
Oh non, au bord de la mer, je ne fais rien, je ne m'ennuie jamais. Je n'écris même pas.
Ah bah viens ici pour écrire.
Ah non, c'est impossible. Moi j'ai besoin, tu sais, du bruit, de l'agitation, du dérangement. C'est vrai, ici, le manque de vie, je sais pas, ça me coupe les idées.
Mais ici, il y a de la vie, écoute, il n'y a que ça.
Ah, oui. Celle des vaches et des petits oiseaux, grenouilles. Mais avoue, toi, tu t'ennuierais aussi si tu n'avais pas ta politique. Et ta fille aussi s'ennuie. Oh, elle préfère être à la plage, crois-moi.
Oh, mais à la plage, elle y va tout le temps à la plage avec sa mère. Viens, c'est par ici. Non, si elle s'ennuie, c'est qu'elle a plus sa petite copine. Les parents ont été nommés ailleurs. Bah, il suffirait qu'elle en trouve une autre.
Je doute qu'elle trouve une petite copine dans le coin. Enfin, si, peut-être. Petite paysanne.
Oh, pune. Mais il n'y a plus de paysanne ni de paysan. Tu ne sais vraiment pas ce que c'est que la campagne actuellement.
Oh, bah et toi?
Comment moi? Mais oui, moi, c'est mon élément.
Ah oui, la campagne électorale, tu veux dire?
La campagne était pour moi si nouvelle que je ne pouvais me lasser d'en jouir. Je pris pour elle un goût si vif qu'il n'a jamais pu s'éteindre. Le souvenir des jours heureux que j'y ai passés m'a fait regretter son séjour et ses plaisirs dans tous les âges, jusqu'à celui qui m'y a ramené. La simplicité de cette vie champêtre me fit un bien d'un prix inestimable en ouvrant mon cœur à l'amitié. La manière dont je vivais à Beausset me convenait si bien qu'il ne lui a manqué que de durer plus longtemps pour fixer absolument mon caractère. Les sentiments tendres, affectueux, paisibles en faisaient le fond. Je crois que jamais individu de notre espèce n'eut naturellement moins de vanité que moi. Si le bonheur de Rousseau est indéniable aux Charmettes, accordons-nous là-dessus, que ce soit un souvenir, oui, une reconstruction, peu importe, vous m'accorderez qu'il est en grande partie lié, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, à son rapport à la nature, à la campagne dont, oui, il parle. Or, il est étonnant de constater que la façon qu'il a de décrire la campagne et de décrire son bien-être lorsqu'il est entouré des arbres, des fleurs, lorsqu'il fait de la botanique, semble contredire, en tout cas s'éloigner de la nature telle qu'il l'a décrit dans le discours sur l'origine de l'inégalité, d'être nature qui doit être rude pour forger le caractère de l'homme, précisément.
Oui, la nature qui est comme la mère de Sparte, la loi de Sparte qui donc tue ceux qui sont inaptes. Mais je pense que la nature dont il est question dans le second discours, c'est tout de même une hypothèse théorique. C'est l'état de nature qui n'a peut-être jamais existé, qui n'existera jamais, est une hypothèse pour découvrir. Et bien, en dépouillant l'homme de tout ce que la civilisation a mis comme strate passionnelle, ce qu'il est, en méditant, on le dépouille et on arrive à l'origine, c'est-à-dire la nouvelle anthropologie de Rousseau sur ces deux passions que sont l'amour de soi et la pitié. Donc c'est une hypothèse théorique, je ne crois pas que ce soit que ça ait un sens de rapprocher le goût si descriptif et en effet scientifique et rêveur de la fin de la vie avec la botanique et ce parti qui est un parti théorique contre les constructions de Hobbes, enfin de tous les concurrents pour retrouver la véritable nature de l'homme.
Non, ben c'est la différence entre la nature et la campagne, sans doute.
Oui, sans doute, sans doute.
Dans la dimension plus littéraire, dans le deuxième cas.
Ce n'est pas c'est pas une nature maternelle. Oui.
En tout cas, dans les deux cas, il y a ce souhait d'une continuité. Il le dit dans l'extrait que j'ai lu. Il aurait aimé que cette vie champêtre puisse continuer plus longtemps, de manière, dit-il, à fixer absolument mon caractère. Donc, il voit bien que la nature est formatrice dans le caractère même qui va devenir.
C'est-à-dire que la nature, elle vous sépare des autres êtres, et quand vous êtes séparé des autres êtres, vous n'êtes plus pris dans la concurrence qui est pour Rousseau. Rousseau étant le grand penseur antilibéral, finalement, un des premiers grands penseurs antilibéraux. La nature vous sépare, donc vous ôte à cette concurrence dans laquelle sont écrasés les amours propres des contemporains. Et le sien aussi, lui aussi bien sûr, est rentré dans la carrière littéraire et donc a été pris dans ce jeu de l'amour propre.
C'est ça, c'est pas tellement la campagne ou la nature en tant que telle que le fait qu'il y soit seul, donc séparé des autres êtres humains.
Donc séparé des autres êtres humains dans ce rapport pernicieux qui est le rapport concurrentiel. Mais évidemment pas dans ce rapport bienfaisant que sont les passions douces de l'amour et de l'amitié qui vous permettent d'être vous-même. Vous n'êtes pas vous-même quand vous êtes isolé dans la désolation de cette solitude auquel ses persécuteurs l'acculent. Ils l'acculent dans une solitude qui est invivable, qui est une claustration. Alors que la solitude entourée de maman ou des Lambercy à Bosset ou de Thérèse et du Receveur à l'île Saint-Pierre, c'est autre chose. C'est une solitude ouverte.
Solitude qui ne cesse de peupler de ses lectures, qui tiennent à une place très importante, y compris au sein du livre 6.
Oui, bien sûr. Là, évidemment, c'est le deuxième point. Ce que les Charmettes ont de formidable pour nous, c'est que c'est la période de formation, c'est la période de la grande acculturation de Rousseau, qui était un jeune fugueur. Je dis pas que c'est un SDF, mais enfin, il y a des moments où il se demande.
Un vagabond.
Un vagabond. Il y a des moments où il se demande s'il garde l'argent pour manger ou pour dormir. Donc, il est vraiment. Il y a un beau texte de Bachko qui le comparait à quelqu'un de la Beat Generation, parce que c'est une sorte de migrant. Il n'a rien à voir avec la formation des autres grands penseurs des Lumières. Il se fait lui-même. Et les Charmettes, c'est justement cette école, cette formation. C'est le moment où il va apprendre une foule de choses. Et d'abord, la philosophie politique, l'histoire, la géométrie, le latin. Donc là, il y a un programme de lecture pantagruélique qui est sa manière à lui de passer son temps, ce temps libre, ce temps d'oisiveté. C'est en même temps un temps de travail forcené.
Et au Charmettes, il se passe une chose énorme dans sa vie intérieure. Voyez-vous, il a plus de 20 ans, le garçon que nous avons devant les yeux. Et rien ne prédestine à être l'écrivain qu'on va voir, enfin, l'homme du contrat social et de l'Émile. Ses petites études, ça s'est terminé à 13 ans et demi. C'est au Charmettes que ça va se passer, parce qu'il est en exil, parce qu'il s'ennuie à crever, il ne sait pas que devenir dans ses Charmettes. Et là, il y a un voisin qui s'appelle Monsieur de Convier qui lui ouvre le monde de la connaissance, qui lui ouvre sa bibliothèque. Et ce garçon qui n'aimait pas lire, ça n'intéressait pas, se met à lire, et il lit avec une espèce de passion, parce qu'il aborde cette connaissance avec un esprit déjà formé. Nous autres, dans nos classes, on commence la philo à 16 ans, on répète comme des perroquets. Lui, il a plus de 20 ans lorsqu'il ouvre ses livres. Il est intelligent. Et il sent cette connaissance entrer en lui avec une extraordinaire félicité. Ivresse de se sentir si intelligent. Alors en même temps que, pour employer le langage de Mauriac, en même temps que le démon de la connaissance, le démon de l'ambition entre en lui. Comment voulez-vous qu'il fût ambitieux jusqu'à présent? C'est au Charmettes qu'elle va se passer.
Après une heure ou deux de causerie, j'allais à mes livres jusqu'au dîner. Je commençais par quelques livres de philosophie, comme La Logique de Port-Royal, L'Essai de Locke, Malebranche, Leibniz, Descartes, etc. Je m'aperçus bientôt que tous ces auteurs étaient entre eux en contradiction presque perpétuelle. Et je formais le chimérique projet de les accorder, qui me fatigua beaucoup et me fit perdre bien du temps. Je me brouillais la tête et je n'avançais point. Enfin, renonçant encore à cette méthode, j'en pris une infiniment meilleure et à laquelle j'attribue tout le progrès que je puis avoir fait malgré mon défaut de capacité, car il est certain que j'en eus toujours fort peu pour l'étude. En lisant chaque auteur, je me fis une loi d'adopter et suivre toutes ses idées sans y mêler les miennes ni celles d'un autre et sans jamais disputer avec lui. Je me dis: commençons par me faire un magasin d'idées, vraies ou fausses, mais nettes, en attendant que ma tête en soit assez fournie pour pouvoir les comparer et choisir. Cette méthode n'est pas sans inconvénient, je le sais, mais elle m'a réussi dans l'objet de m'instruire. Au bout de quelques années passées à ne penser exactement que d'après autrui, sans réfléchir, pour ainsi dire, et presque sans raisonner, je me suis trouvé un assez grand fond d'acquis pour me suffire à moi-même et penser sans le secours d'autrui. Alors, quand les voyages et les affaires m'ont ôté les moyens de consulter les livres, je me suis amusé à repasser et comparer ce que j'avais lu, à peser chaque chose à la balance de la raison et à juger quelquefois mes maîtres.
« Il y a quelque chose de cartésien dans la méthode qu'il met en œuvre pour lire Claude Habib lorsqu'il dit que plutôt que de contredire chacun des auteurs au moment où il les lit, ce qui l'épuise totalement, il décide de les suivre jusqu'au bout comme une sorte de morale provisoire pour ensuite pouvoir se forger son propre jugement.
Pour se forger son propre jugement, c'est une sorte de renoncement provisoire, en effet, à se former son jugement. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est le contraire de la méthode de l'éducation nationale actuelle. C'est-à-dire, vous savez, on dit toujours, il faut former la pensée critique, il faut critique. Là, chez Rousseau, pas du tout. Lui, il choisit de se plier en étant tout à fait certain que son originalité n'y a pas perdu et que quand il a commencé à publier ses idées, personne ne l'a trouvé imitateur des pensées d'autrui. Mais la première chose, c'est de se plier pour suivre les systèmes, puisqu'on ne peut pas les mettre d'accord, on ne peut pas mettre tous les philosophes d'accord. Alors, cette fringale de lecture, il dit qu'elle n'est pas du tout, elle n'est pas du tout liée au désir d'insertion sociale. Ça, c'est une chose qu'il fait pour lui, parce que justement il est malade, il est persuadé qu'il va mourir, donc il veut d'abord s'assurer de ce qu'il peut espérer de manière métaphysique et religieuse, et puis de là il passe à l'histoire et il passe à toutes les connaissances. Dans la dixième promenade que vous avez lue, et qui est donc ce moment de ferveur pour Madame de Voiron, la dernière phrase c'est au contraire « Je pensais qu'une provision de talent était la plus grande ressource contre la misère et pour me mettre en état de rendre un jour à la meilleure des femmes l'assistance que j'en avais reçue. » Donc là, au contraire, l'idée c'est je pourrais, en devenant quelqu'un dans le monde de la culture, aider Madame de Voiron puisqu'elle est en train de se ruiner, puisque c'est une femme qui dépense trop, elle dilapide son argent. Donc là, l'idée est au contraire une idée pratique, et cette acquisition folle de savoir a un but, mais qui n'est pas un but pour lui, qui n'est pas un but égoïste, mais qui est un but de gratitude. Dans les deux cas, ce qu'il nous dit, c'est « je ne travaille pas pour moi ». Ce n'est pas... Alors, vous pouvez penser que c'est de la dénégation, et que Rousseau veut devenir Rousseau, et veut devenir le grand Rousseau, et nous raconte des bobards. Moi, je crois qu'il faut suivre un auteur comme lui-même suit les auteurs qu'il étudie et croire ce qu'il nous dit.
Ce qui est amusant, c'est de voir à quel point il assiste, et à de nombreuses reprises dans les confessions, sur son inaptitude à l'étude. Il dit bien qu'il il insiste, il dit, on l'a lu hier, je sentis avant de penser, le sentiment lui est plus aisé, lui vient plus facilement que la pensée, que le raisonnement.
Oh, ça c'est le sensualisme courant, hein, ils disent tous ça.
Et ici il dit bien qu'il avait très peu de capacité, j'en ai toujours eu fort peu pour l'étude.
Oui, il faut que je ne sois pas née pour l'étude, car une longue application me fatigue à tel point qu'il m'est impossible de m'occuper une demi-heure de suite avec force du même sujet. Ça, c'est Rousseau, c'est-à-dire, moi, je crois vraiment qu'il est sans vanité, parce que il a des capacités intellectuelles formidables. Enfin, il suffit de lire le début du Contrat social pour en être persuadé. Mais lui est persuadé du contraire. Lui est persuadé que il a vraiment beaucoup de mal. La pensée lui coûte. Et vous avez toutes ces expressions. J'ai jamais pu apprendre le latin. Je m'y suis pris 3 fois et je sais pas le latin. Bon, Christine Hamann, qui regarde ses traductions du latin puisqu'il en a traduit, dit que c'est un grand latiniste, c'est un très bon latiniste. Il est tout le temps en train de se déprécier, au point que ses lecteurs, moi comprise, ont une fausse idée de lui. Par exemple,
pas toujours. Il se déprécie autant qu'il se valorise quand même. Il faut être assez juste. Il sait très bien, et d'ailleurs c'est le projet des confessions, dire ce qu'il rate, ce qu'il ne sait pas faire, quels sont ses défauts, quels sont ses vices, ses sujets de honte, mais il sait aussi très bien les valoriser quand il le faut. Et c'est l'affirmation de l'absence de vanité n'est douteuse que parce qu'il dit que jamais aucun homme n'eut moins de vanité que lui. C'est ça qui paraît anti-vaniteux.
Mais je crois que c'est tout à fait vrai. Il n'a pas, il n'a pas d'épiderme, il n'a pas de cuirasse, il n'est pas protégé parce que il se sent très fréquemment nul, hébété, et nous le croyons parce que nous avons son récit. Par exemple, bon, c'est très célèbre, il dit qu'il est nul en société, qu'il est extrêmement incapable dans le monde, qu'il fait que des bourdes. Donc on a ce sentiment-là. J'ai été stupéfaite de voir chez Madame de Genlis, qui est quand même Madame Étiquette, elle a fait le premier dictionnaire de politesse sous Napoléon. Bon, c'est Madame Politesse dire Bernardin de Saint-Pierre, c'était un rustre. Rousseau, lui, au contraire, il avait des bonnes manières, c'est quelqu'un qui avait fréquenté le monde. quand Madame de Genlis, qui l'a connu sur le tard, dit ça, on se dit, ah bon, Rousseau était un homme de la bonne société. Mais c'est une chose qu'on peut pas deviner. On peut pas comprendre qu'il est bon latiniste, que tout, parce que il n'arrête pas de se déprécier. Enfin, il n'a aucune vanité au sens où il n'a pas d'affirmation de lui.
Eh bien, on laissera les auditeurs trancher sur ce débat. Merci, Claude Habib.
Et tous les naufragés de l'aventure essayent encore de s'y accrocher. Car ici, on a le temps de rêver. On a le temps de penser à la vie, à l'amour, à la mort et au printemps.
Au printemps, au printemps. Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur.
Vous reviendrez nous parler de la vanité de Rousseau, Claude Habib, qu'on s'engueule un peu plus, parce que là, sur ce point-là, bien sûr, nous ne sommes pas d'accord. C'est un grand plaisir, en tout cas, de vous entendre vous parler du livre 6 aujourd'hui des Confessions.
Merci.
Et je renvoie les auditeurs à l'ouvrage que vous avez consacré à Rousseau au Charmettes, suite à votre visite au Charmettes. Vous avez passé quelques jours là-bas. Disponible aux éditions de Fallois. On est un peu en retard, tant pis pour Jacques Brel qui chantait les délices du printemps, tout comme Rousseau. Il est 10h51, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Tout de suite, les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie.
La terra non è riuscita a inghiottirmi nella voragine. Non m'ha inghiottito il mare con le sue rabbiose tempeste. Sono sfuggito alla giustizia, sono scampato al circo. Mi sono perfino macchiato le mani di sangue.
Quand on parle de romans, on pense plutôt à Proust ou Stendhal qu'à Héliodore, Xénophon d'Éphèse ou encore Achille Tatus. Tout au plus, on pense au satyricone de Pétrone, grâce à Fellini, dont on entend un extrait du film. L'idée même de roman semble être tout à fait étrangère à l'antiquité mythique, orale et épique. Et pourtant, il y a bien des romans grecs et latins, au moins 7 en tout cas, que les éditions des Belles Lettres ont eu l'idée géniale de rassembler dans de nouvelles traductions. Alors c'est une idée géniale parce qu'avec ces romans, c'est comme si on perdait enfin nos repères pour se laisser aller à l'étrangeté. Alors évidemment, on peut se demander quelles sont les caractéristiques du roman antique. Le diviser en catégories, d'un côté les idéalistes avec la réalisation de l'amour parfait entre deux personnages parfaitement beaux, et puis de l'autre les réalistes, plus triviaux comme le satyricone, ou encore on peut voir comment s'y jouaient déjà des problématiques de genre, d'identité et de pouvoir. Mais au-delà de la dimension universitaire, il y a surtout le plaisir de faire le grand écart entre un texte complètement bizarre comme les Éphésiaques de Xénophon, avec ses répétitions et ses personnages fantomatiques, ou les Éthiopiques, un roman flamboyant d'Héliodore. Et il y a aussi le plaisir de faire le grand écart au sein même d'un texte, comme la pastorale de Longus qui montre Daphnis essayant de satisfaire son désir en s'entourant autour de Chloé, comme, je cite, « les béliers font aux brebis ». Ce qui est donc génial avec ces romans, c'est qu'ils nous poussent à nous demander pourquoi on ne lit pas l'innocence avec innocence, pourquoi on plaque toujours nos catégories, et pourquoi même le genre le plus créatif comme le roman est le lieu des pires habitudes. Ils sont donc autant d'occasions de les perdre, à l'image du festin du satyricone, plein de surprises qui cassent la plus rigide familiarité romanesque par la familiarité la plus romantique.
Romantique de ces romans antiques.
De ces romans antiques, tout à fait.
Donc c'est un énorme livre.
C'est un énorme livre. Bah, y a 7 romans, ils sont grecs et latins, et c'est les éditions des Belles Lettres.
Merci beaucoup Géraldine, merci à toutes et à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée aux Confessions de Rousseau. Demain, ce sera Jean-François Perrin qui viendra vous parler des livres 7 à 9 des Confessions. Vous verrez, c'est le moment où tout bascule. D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que celle d'hier et les émissions des semaines passées, rendez-vous sur le site de France Culture, page des nouveaux chemins de la connaissance. Vous pourrez les réécouter, mais aussi les télécharger, les podcaster, afin de les écouter quand vous voulez et où vous voulez. Et rendez-vous également sur nos comptes et pages Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour.